Bonjour, je suis le docteur Lynn Kleine-Brel et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours que nous avons préparé en collaboration avec le docteur Christian Mésange pour vous parler de l'AI-Santé, qui est une opportunité pour la prise en charge des maladies chroniques comme le diabète et surtout dans les pays comme l'Afrique. Alors les objectifs spécifiques d'apprentissage, c'est d'abord de vous aider à comprendre le rôle global de l'AI-Santé, de comprendre aussi les limitations actuelles des systèmes de l'AI-Santé, et enfin de comprendre les opportunités de l'AI-Santé dans son application médicale pour lors d'une consultation, particulièrement pour suivre une personne qui souffre de maladies chroniques. Et nous verrons à cette occasion un certain nombre d'exemples, en particulier pour l'éducation nutritionnelle. Alors, au sommaire de ce cours est composé de 4 parties théoriques et d'une série d'exemples. Dans une première section, nous verrons les parties 1 et 2 qui vont présenter le rôle global de l'AI-Santé, ainsi que le rôle et les limitations actuelles de l'AI-Santé. Dans une section 2, nous verrons ensuite les opportunités de l'AI-Santé lors d'une consultation médicale pour un patient atteint de maladie chronique et les opportunités de l'AI-Santé dans le cadre de l'éducation nutritionnelle à partir de quelques exemples. Alors, abordons tout de suite la partie 1 et tout d'abord des définitions de l'AI-Santé. Définition globale de l'OMS. Pour l'OMS, l'AI-Santé se définit comme les services du numérique au service du bien-être de la personne. Donc une définition extrêmement globale. Elle se définit également comme l'utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales. Donc c'est une extension entre le médical et le médico-social. Une définition plus récente concerne la M-santé. M pour mobile, c'est-à-dire ce sont tous les services qui touchent à la santé qui sont disponibles en permanence via un appareil mobile connecté à un réseau. Et en d'autres termes, on peut dire que la M-santé, c'est de l'e-santé accessible avec un téléphone mobile ou une tablette. Vous entendrez aussi parler de TIC santé, les TIC pour technologie de l'information et de la communication en santé. Les TIC englobent l'ensemble des applications numériques au service de l'offre de soins. Donc encore une définition extrêmement générale. Cette dynamique TIC d'informatisation du système de santé concerne notamment les systèmes d'information hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet. Autre définition dont vous entendrez parler, on parle de télémédecine. Dans télémédecine, il y a le mot médecine associé à télé. C'est donc une pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication. Mais on distingue plusieurs usages. La téléconsultation, qui offre à un professionnel médical la possibilité de réaliser une consultation à distance, par exemple, consultation à distance d'une personne âgée et résidant en EHPAD par le gériatre d'un hôpital, ou consultation spécialisée à distance d'un psychiatre pour un malade souffrant de pathologie mentale résidant loin d'un centre hospitalier où il y a une consultation spécialisée. Autre définition de la télémédecine, le sous-groupe de la télé-expertise. Dans la télé-expertise, elle permet à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leur formation ou de leurs compétences particulières. C'est donc souvent une notion de deuxième avis et c'est une consultation, un échange qui se fait entre professionnels de santé, tandis que dans la télémédecine en général, on inclut la consultation entre un professionnel de santé et impatient. Donc, exemple de télé-expertise, demande d'un avis neurochirurgical d'un urgentiste à un neurologue par vidéoconférence pour prendre en charge un patient souffrant d'un AVC et décider de la situation et de la gravité de la situation et de la stratégie thérapeutique. Après ces définitions générales, des différents termes que vous pourrez avoir l'occasion de croiser lorsque vous parlerez de e-santé, eh bien, dans la partie 2, nous allons voir le rôle, mais aussi les limitations actuelles de la e-santé. La e-santé est certainement une opportunité. Elle apparaît de plus en plus comme une solution pertinente pour répondre aux défis que doivent relever les systèmes de santé. Ces défis sont nombreux, en particulier dans les pays en développement ou dans des zones où il y a une pénurie de professionnels formés, disponibles auprès de la population. Les défis sont, d'une part, l'évolution de la démographie médicale, d'autre part, les inégalités territoriales d'accès aux soins, la hausse de la prévalence des maladies chroniques pour lesquelles il n'existe pas suffisamment d'infrastructures pour prendre en charge cette population, et d'une façon plus globale, le vieillissement de la population et la prise en charge de la dépendance. La e-santé a la particularité d'être centrée sur l'usager, puisqu'elle permet de replacer l'usager au cœur du dispositif et de répondre à sa volonté d'autonomie, désormais reconnue comme un droit des malades. En effet, le patient peut directement consulter soit en télémédecine, soit avoir accès à des informations qui sont, comme on le sait, extrêmement nombreuses, mais aussi de qualité très inégale. C'est pourquoi il est important que cette e-santé soit correctement mise au service du décloisonnement des secteurs sanitaires et médico-sociaux, décloisonnement entre services hospitaliers et services ambulatoires, entre médical et paramédical, car ainsi la e-santé peut être le lien qui pourra servir de levier pour encourager la prévention et les soins primaires, tout en garantissant l'accès à des soins de qualité pour tous, grâce à un maillage effectif du territoire, puisque la e-santé permet de relever le défi de la délocalisation des professionnels et de l'éloignement des patients par rapport aux structures de santé. Il y a toutefois des incertitudes sur la e-santé, car malgré l'intérêt qu'elle suscite, la e-santé est longtemps demeurée tout à fait sous-exploitée. Ce constat est vrai pour l'ensemble des pays, même si certains pays sont plus avancés que d'autres. En dehors de l'Afrique, si on va vers le nord de l'Europe, les pays nordiques disposaient déjà d'un système d'ordonnance électronique, d'un portail national d'information sur la santé en ligne et d'un dossier patient numérisé dès le début des années 2000. Mais une incertitude importante demeure quant à sa capacité à réduire les coûts de la santé, du moins dans un premier temps. Car en effet, si cette informatisation des services de santé laisse espérer beaucoup plus d'efficience, elle pourrait aussi offrir de nouveaux services qui pourraient aussi augmenter la demande, et donc en permettant un accès beaucoup plus généralisé à des consultations par exemple spécialisées, ou à des consultations de soins primaires plus fréquentes, par plus faciles, on peut craindre aussi une augmentation globale du coût engendré pour les systèmes de santé. C'est un des freins qui, par exemple en France, réduit les décrets d'application pour le développement de la e-santé. La e-santé est aussi, dans les pays en développement, souvent considérée comme porteuse d'espoir, mais aussi une mal-aimée. Pourquoi mal-aimée ? Parce que la e-santé a souvent été limitée à des investissements souvent importants dans les secteurs hospitaliers et dans le cadre d'une modernisation du fonctionnement administratif. La gestion du personnel, les facturations. Et donc, en fait, le bénéfice clinique, le bénéfice pour les soins, pour l'accès aux soins, a été relativement limité par rapport aux investissements qui ont été faits. Donc, cette modernisation ne concourait pas directement à la qualité des soins et au contraire, souvent, réduisait la disponibilité du personnel qui devait, en plus de leurs tâches cliniques de soins, se mettre à l'informatique et remplir de nombreux écrans. Quels sont les problèmes de la généralisation de la e-santé? Il reste encore des problèmes qui doivent être résolus, comme par exemple comment gérer la confidentialité des données personnelles. C'est un problème difficile qui nécessite à la fois des investissements dans les systèmes eux-mêmes pour sécuriser les données, pour crypter les données par exemple, mais aussi très souvent un accompagnement juridique et législatif. Un autre problème, c'est la gestion du déploiement des solutions techniques pour couvrir l'ensemble de la population. Si on commence par informatiser que les grands hôpitaux des grandes villes, avant que les bénéfices soient réels et ressentis par la population habitant loin de ces centres hospitaliers, la e-santé paraît réservée à quelques sites privilégiés. Enfin, un problème qui n'est pas non plus encore tout à fait résolu pour la généralisation de la e-santé sont les problèmes juridiques de responsabilité. La formation, l'autonomie, le suivi des patients, lorsque des solutions de e-santé leur permettent de rester à domicile pour leur traitement, mais qui est responsable lorsque, par erreur de transmission, par exemple d'un fichier, une mauvaise interprétation d'une image a été faite et donc qui a donné lieu à, par exemple, à une erreur d'interprétation et une erreur de diagnostic. Est-ce lorsqu'il n'y a pas de médecin présent auprès du patient et que le médecin est seulement distant et se fonde, que son diagnostic se fonde uniquement sur des données qui lui sont transmises? On peut considérer que dans la définition de la médecine, il n'y a pas de médecine sans être proche du patient. Donc tout ceci, l'évolution de la e-santé va nécessiter des nouvelles définitions et un nouveau cadre législatif pour l'exercice. Autre problème, toujours pour la généralisation, c'est le basculement vers le numérique des services de santé actuels, puisqu'il va y avoir une période de cohabitation entre le dossier papier et un début de dossier informatisé, entre des professionnels qui n'ont pas été formés à ces outils et de nouveaux professionnels qui, eux, plus jeunes, vont s'approprier les outils. Et donc, ce qu'on a dit aussi, c'est que il faut mettre en place, en même temps qu'on déploie de nouveaux services, il faut mettre en place des méthodologies d'évaluation de la e-santé pour juger de son efficience et pour pouvoir effectivement démontrer les bienfaits d'une meilleure qualité des soins, d'une plus grande satisfaction de la population, toujours avec un souci de maîtrise des coûts. Donc, les nouvelles responsabilités aussi bien des autorités de santé que des professionnels de santé doivent être pris en compte dans cette réflexion globale sur le déploiement de la e-santé. Alors, après ces généralités et ces réserves, ces difficultés que nous avons soulignées sur la généralisation, nous pouvons tout de même faire des recommandations pour souhaiter que la e-santé se déploie dans les meilleures conditions et dans un avenir relativement proche. Très certainement, il est nécessaire qu'il y ait des recommandations qui soient faites au niveau global pour aider les États eux-mêmes à encadrer et à développer la e-santé. La mise en place d'une structure de gouvernance qui soit précise en vue de superviser, entre autres, la mise en œuvre, la législation, les registres cliniques et la protection juridique de la e-santé, est certainement quelque chose qui est de l'ordre de l'OMS et des recommandations et du travail collaboratif avec les différents États. Autre recommandation, il y a nécessité de favoriser ce qu'on va dire être une approche inclusive et intersectorielle des stratégies de développement de la e-santé et de la télémédecine pour s'assurer de leur pertinence auprès de l'ensemble des parties prenantes du système de santé. Donc ne pas cloisonner les investissements, profiter de cette informatisation pour avoir un schéma global et pour appréhender justement une circulation de l'information pour plus de cohérence dans le parcours de soins, dans le partage de l'information pour faciliter les diagnostics, leur rapidité, leur fiabilité et éviter les doublons en termes d'examens complémentaires par exemple. Donc une législation qui va encadrer l'utilisation des dossiers médicaux électroniques devrait être développée et harmonisée si possible entre les différents États membres pour tenir compte de la mobilité dans une zone, par exemple dans la zone européenne, mais aussi dans certaines zones africaines, par exemple la zone de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Troisième série de recommandations. L'OMS insiste par ailleurs sur l'importance d'augmenter la littératie numérique des professionnels de santé et du public et incite les États à avoir davantage recours à des dispositifs de e-learning pour les étudiants en médecine comme pour les professionnels déjà en exercice. Cette pratique qui se développe peu à peu dans les universités permet effectivement que les jeunes futurs médecins s'approprient complètement ces technologies et finalement les intègrent de manière naturelle dans leur pratique. Mais pour que cela se déploie dans de bonnes conditions, il faut aussi assurer que, entre les différentes solutions techniques, l'interopérabilité, qui a été mentionnée comme un chantier majeur de développement de l'e-santé, soit aussi, non pas un vœu pieux, mais devienne une réalité, par la mise en œuvre dans chaque État d'une approche systématique de l'adoption de standards pour l'échange de données du secteur santé et du secteur médico-social. Enfin, le rapport de l'OMS plaide en faveur d'un financement soutenu, du remboursement et de la définition de normes de la cybersanté. C'est ainsi qu'a résumé le Bureau européen de l'OMS dans son communiqué qui rappelle que lorsque les autorités de santé publique restent inactives, les organisations commerciales viennent rapidement exploiter le potentiel du secteur de la santé sans pour autant pouvoir assurer l'interopérabilité et le cadre législatif dont on a vu qu'ils sont absolument essentiels pour un déploiement harmonieux qui apporte une réelle efficience. Concernant la M-Santé, l'utilisation du mobile, des smartphones, des tablettes qui se sont développées à grande vitesse, qui maintenant à peu près chaque professionnel de santé a son smartphone et de très nombreux patients, il y a aussi des conditions particulières à respecter. Et le Bureau européen de l'OMS recommande la création dans les États d'une entité responsable de la surveillance réglementaire des applications de M-Santé et de l'évaluation de leur impact et de leurs bénéfices. Il existe en effet chaque jour de nombreuses applications qui sont disponibles sur le web, qui peuvent pour certaines apporter de grands bénéfices, mais dont la rigueur en termes de développement informatique, par exemple pour des applications qui voudraient pour les diabétiques les aider à automatiser le choix de leur dose d'insuline à injecter, eh bien, il faut certainement une autorité de surveillance qui va valider les critères des logiciels qui vont faire des recommandations de cette nature. Donc nous avons vu aujourd'hui, dans cette première partie, des choses un petit peu théoriques sur les définitions globales des différents secteurs de la e-santé, sur les limitations actuelles, sur les perspectives, en particulier dans le cadre du travail de l'OMS pour accélérer et résoudre les problèmes qui restent à résoudre pour le déploiement de la e-santé. Et dans la suite du cours, nous verrons des applications beaucoup plus pratiques aux maladies chroniques et à l'application. Je vous remercie.